Soyez les bienvenus dans Cop Gone, votre rendez-vous chaque lundi sur BFM Lyon pour débriefer les matchs de l'Olympique Lyonnais. Malheureusement, le sourire n'est pas là ce soir. On ne va pas parler football, mais extra-sportif après les événements dramatiques qui se sont passés hier soir à Marseille. Pour en parler ce soir avec moi, avec toutes les infos RMC Sport, évidemment, Edouard G. Bonsoir Edouard.
Bonsoir Elodie, bonsoir à tous.
Enzo Real également, bonsoir Enzo.
Bonsoir.
Et Maxime Feuillet, bonsoir Maxime.
Bonsoir Elodie.
On revient donc sur cet Olympico qui, encore une fois en deux ans, n'aura pas eu lieu hier soir. Match annulé après l'attaque des quarts des joueurs de l'Olympique Lyonnais, mais aussi des bus, des supporters. L'image est terrible. Hein. On voit ce bus arriver dans les travées du Vélodrome hier soir. Fabio Grosso qui en descend en sang. L'entraîneur de l'OL et son adjoint touché. L'entraîneur de l'OL qui a dû avoir 12 points de suture. On apprendra plus tard aussi que les quarts de supporters ont été attaqués. Une centaine de personnes vêtues de noir et cagoulées s'en sont donc pris hier soir au bus lyonnais. Messieurs, première question très simple. Quelle est votre réaction quand vous avez découvert tout cela hier soir, Enzo ?
Ben, c'est catastrophique. Hein. Pour du football en arriver là, c'est quand même dommage. Surtout que c'était un grand événement. C'était un Olympico et voilà, c'est des familles qui se déplacent pour aller voir ce match. J'ai d'ailleurs des amis qui ont été à Marseille pour regarder le match. Ça devait être un spectacle et ça se termine comme ça. C'est quand même dommage pour le football français et pour ce que renvoie l'image du football par rapport à hier.
Maxime, en tant que journaliste, mais aussi supporter de l'Olympique lyonnais, j'imagine qu'en découvrant ces images hier soir, vous étiez aussi horrifié.
C'est catastrophique ce qui s'est passé hier soir à Marseille. On a senti sur les coups de 19h30, 20h, qu'il allait se passer quelque chose. On a vu ces images de Buscaillacé, on a vu l'image de Fabio Grosso arrivant dans le stade. On a senti qu'il se passait quelque chose de grave. Ça nous a rappelé un petit peu ce qui s'était passé en 2021 lors de ce fameux Lyon-Marseille et la bouteille de cristalline jetée sur Dimitri Payet. On a senti que c'était une de ces ambiances qu'on n'aime pas du tout, une publicité très 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 mauvaise pour la Ligue 1 qui cherche en plus à faire valoir ses droits. C'est la pire des publicités possibles ce qui s'est passé hier soir et c'est très grave.
Une honte, Edouard, on peut le dire, pour le football français. Encore hier soir, Enzo le disait, ça devait être une fête. Pour la première fois depuis 6 ans, les supporters lyonnais avaient le droit de se déplacer à Marseille. Il y avait eu de nombreuses réunions avec la préfecture de police de Marseille, avec la préfecture du Rhône, les groupes de supporters marseillais et lyonnais, pour que tout se passe le mieux possible, pour qu'enfin les supporters puissent se déplacer. Et là, encore une fois, on a l'impression d'une escalade de la violence autour de ces matchs.
Affligeant, ignoble, incompréhensible. Et puis, moi, j'ai envie de dire qu'hier, on a vécu un miracle. Miracle, il n'y avait pas eu de mort. Tout simplement, il ne faut pas avoir peur des mots. Je le dis depuis un certain temps. Il y a 18 mois, j'ai vécu le barrage retour de Saint-Étienne face à Auxerre. J'ai cru y laisser ma vie. Franchement, encerclé par des fumigènes, je pensais qu'on avait franchi le pas, mais là on est allé encore plus loin. Et là c'est carrément, je vous invite à voir les photos de Fabio Grosso avec ses 12 points de suture, notamment des points qui vont sur la paupière.
Il aurait pu perdre son œil,
quoi. Voilà. Et on va dire que c'est pour ça que je vous parle de miracle, parce qu'il y a plusieurs choses dans ce. Il y a ça, il y a l'attaque des supporters, il y a le comportement des supporters de l'OL, on en parlera. Mais d'abord, c'est ça, quoi. On attaque les acteurs du jeu. Mais
Jusqu'où hier,
allons-nous ?
Edouard, justement, sur Twitter, qui dit jouer au foot est devenu un métier dangereux.
Mais oui, fatalement. C'est incroyable, quoi, d'en arriver là, d'avoir cette forme de guet-apens, parce qu'on peut pas imaginer autre chose quand on voit comment ça s'est passé. Ça a duré une minute, c'est pavé, et au final c'est une bouteille de bière qui est allée se choquer sur le front de Fabio Grosso. Son adjoint aussi a reçu des bouts de verre. On sait aussi que parmi les supporters, il y a eu des interventions de secouristes, une quinzaine de supporters de l'OL et même des personnes qui faisaient pour la première fois, des pères de famille, des personnes avec des handicaps, etc. C'est un truc, mais j'arrive plus à trouver les mots.
Et je crois qu'on est tous dans le même cas que vous, hein, depuis 24 heures maintenant, face à ces images qui ont choqué tout le monde. Enzo, vous, en tant que joueur, est-ce que vous avez déjà connu des déplacements compliqués, bien sûr, sans jamais arriver à ces scènes terribles qu'on a vues hier, mais vous avez déjà vécu ce genre de choses ?
Oui, on a déjà vécu ce genre de choses quand on se déplaçait dans le sud ou bien en Corse, mais c'était pas à ce point-là quand même. On sentait une certaine pression des supporters qui venaient vers notre bus, qui bougeaient le bus. Mais en arrivant là, à mettre en danger les joueurs, c'est un truc qui devrait
vous,
jamais arriver.
Vous n'êtes jamais, vous, senti personnellement, physiquement en danger, même quand les situations étaient un petit peu tendues?
Après, on était jeunes à cette époque-là, donc forcément, on se sent en danger. Quand on voit des adultes secouer le bus, c'est sûr. Mais à ce niveau-là, non, jamais.
Cette scène vécue hier soir par les joueurs de l'Olympique Lyonnais, par tout le staff de l'OL, Enzo, quel impact ça peut avoir sur le groupe dans ce contexte, dans cette saison, on le sait déjà, très compliquée pour l'Olympique Lyonnais?
Vivre un truc pareil, c'est sûr que ça ressoude, surtout que le coach a été touché. Et je pense que les joueurs vont avoir envie de se battre pour justement le coach, parce que c'est des petits trucs comme ça qui ressoudent un groupe. Et vivre un moment comme ça, je pense que ça peut être bénéfique, malheureusement, pour la cohésion et pour le groupe. Et voilà, je pense qu'ils voudront tous se battre les uns pour les autres maintenant, quoi.
Et on voit d'ailleurs, Maxime, les images qui viennent de passer, le groupe, les joueurs, Fabio Grosso, John Textor, qui sont sortis sur la pelouse une fois le stade vidé. Il restait que les supporters de l'OL dans le parcage. Ils sont allés sur cette pelouse du Vélodrome pour aussi ce moment de communion avec leurs supporters. C'est une image qui a son importance aussi.
C'est peut-être la première communion de la saison entre l'OL, les joueurs et ses supporters. On sait que le début de saison est compliqué sur le plan sportif, que ça commence à faire du bruit aussi en tribune. Là, c'est la première fois qu'on voit le propriétaire, l'entraîneur, tous les joueurs qui sont là, emmenés par les capitaines, certains en claquettes aussi. Donc on a vu qu'il s'est passé du temps depuis ces images, qu'ils étaient encore seuls dans le stade. C'est des images qui font du bien. On voit Fabio Grosso qui est touché aussi par les chants de supporters qui acclament son nom. On voit que ça lui a fait du bien. Ça peut être aussi un déclic, comme disait Enzo, cette soirée cauchemardesque.
Oui, puis il y a eu ce qui s'est passé dans le vestiaire, parce qu'il y a eu plusieurs temps, on va dire deux temps. Un premier temps où les joueurs, parce que tout le groupe est arrivé, du coup les joueurs sont allés vers le vestiaire et Fabio Grosso est allé vers l'infirmerie. Et là, il y avait une forme d'adrénaline des joueurs qui disent « mais on va jouer, quoi, en fait ». Et ensuite, quelques temps après, les informations de l'infirmerie au vestiaire sont venues. Et là, Fabio Grosso a eu quelques vertiges. Donc les joueurs ont commencé à dire « mais non, mais le coach, il ne peut pas coacher ». Donc c'est pas possible. Et on n'ira pas sur la pelouse. Et pour confirmer ce que dit Maxime et les images, en fait, les cadres ont pris la parole dans la première partie et ont dit « nous, on veut y aller ». Mais on ne va pas vous forcer. S'il y en a un de vous qui ne veut pas y aller, parce qu'on sait qu'il y a des jeunes, on n'y va pas. On est tous ensemble. Et ce fameux « ensemble » que veut Fabio Grosso, il s'est peut-être aussi, cette fois-ci, lié dans ce moment qu'on va peut-être appeler de résilience. Ça, on en parlera peut-être plus tard. Mais c'est important, tout ce qui s'est passé dans le vestiaire et après ce qu'on a vu à l'extérieur.
Et ces différentes étapes, John Textor, le propriétaire de l'OL, qui était au Vélodrome hier soir, justement, on a parlé en conférence de presse, déclaration aussi du président de l'OM, Pablo Longoria. On les écoute.
In fact, we demanded to play. L'opinion des joueurs a évolué au long de la soirée. Le premier message, c'est qu'ils voulaient jouer. Ils ont vu le coach passer dans le vestiaire et il était clair qu'il n'était pas lui-même. Des cadres m'ont dit qu'ils étaient prêts à jouer, mais que s'ils avaient joué, ils l'auraient fait avec de la colère et que ce n'est pas la bonne façon de jouer au football. Il est alors devenu clair que le match ne devait pas avoir lieu.
C'est complètement inadmissible. Je suis en colère, je suis dérouté. C'est une situation que c'est inadmissible. Même si c'est dehors du stade, même si c'est dans la voie publique, ça n'a pas la place ni dans le football, ni dans la société actuelle.
Réaction recueillie évidemment par Florent Germain et Maxime Tillette d'RMC Sport à Marseille. La réaction de Pablo Longoria aussi, on se souvient, il y a deux ans, ça avait pas mal tergiversé lors de l'Olympico à Lyon et du jet de bouteille sur Dimitri Payet. Hier soir, la réaction a été unanime de tous les acteurs. Pablo Longoria directement a été très ferme sur ce qui s'est passé.
Oui, parce que on peut pas comparer ce qui s'est passé à Lyon, et c'est pas parce que ça s'est passé à Lyon, franchement, c'était qu'une histoire de bouteille. On va pas revenir dessus. Là, il y a quand même eu, on n'est pas loin de quelqu'un qui a failli perdre un œil et perdre la vue dans l'exercice de son métier. Et puis tout ce qui se passe aussi autour, parce qu'on en parle peut-être pas beaucoup, mais pour les bus, il y a des chauffeurs. Des chauffeurs qui sont dans le cortège jusqu'à Alençon de Provence. Ensuite, ils sont pris en escorte avec les policiers. Et puis, se balader dans Marseille avec les policiers autour et puis voir ce qui arrive, moi je leur tire un grand coup de chapeau parce qu'il y en a certains qui ont pris un peu plus de temps pour la nuit pour ramener les autres. Voilà, c'est tout un ensemble. Donc je pense qu'hier soir, et c'est ce que Florent Germain et Maxime Tilliette, qui ont fait un excellent travail hier, me racontaient aussi dans la nuit, c'est que voilà, il y avait ce sentiment partagé par tout le monde. On ne pouvait pas jouer, il n'y a pas eu de tergiversation comme en novembre 21.
On va revenir évidemment dans un instant sur ces problèmes de sécurité autour de cette rencontre, de l'arrivée des bus. Mais d'abord, avant la pause peut-être, Edouard, quelles sont les nouvelles aujourd'hui? Est-ce que vous avez eu des infos? Comment est Fabio Grosso? Dans quel état se trouvent les joueurs qui sont rentrés, on le rappelle, dans la nuit hein, à Lyon en avion après tout
ça? Alors pour eux, tout s'est rentré dans l'ordre physiquement, hein, parce qu'ils sont rentrés avec l'avion à minuit et demi, ils étaient à Bron et donc dans la foulée, ils étaient chez eux. La journée de repos aujourd'hui n'a pas été transformée en journée de travail. Rendez-vous demain à 15h pour la reprise. On imagine que dans les têtes, ça ne va pas forcément bien. D'ailleurs, c'est difficile d'avoir des infos. Ça veut dire qu'ils veulent vraiment tout couper et nettoyer un petit peu tout ça. Donc cette partie-là, on va voir si ça va faire un effet. Et puis ce groupe qui avait un encéphalogramme plat, peut-être que ça va justement réveiller. Et puis il y a tous les supporters qui sont revenus dans la nuit. Donc 15 qui ont quand même eu une intervention secouriste au stade pour des éclats de verre. Il y a des bus qui sont revenus avec les vitres éventrées, hein, qui ont quand même conduit les supporters jusqu'à tôt ce matin, 7h pour le retour. Voilà, il va falloir un petit peu du temps pour évacuer tout ça. Puis après, bien évidemment, il va y avoir la politique médiatique, la polémique médiatique, bien évidemment, et puis toutes les suites que l'on va bien évidemment suivre.
Les suites judiciaires, puisqu'évidemment, une enquête est en cours pour savoir ce qu'il s'est réellement passé autour de ces cars de l'Olympique Lyonnais qui ont été caillassés hier soir. La question de la sécurité était-elle défaillante? Les sanctions également? On va en parler dans la deuxième partie de Cop Gone. A tout de suite. On se retrouve pour la seconde période de Cop Gone et on revient bien sûr sur ces événements dramatiques hier soir en marge de l'Olympico. L'Olympico qui n'a pas eu lieu hier soir entre l'OM et l'OL en raison de l'attaque des quarts des joueurs de l'Olympique Lyonnais mais aussi des supporters. On va s'interroger, messieurs, sur la sécurité autour de l'événement, autour du stade et de l'arrivée du bus de l'Olympique Lyonnais, puisqu'on a tous vu les images évidemment hier soir sur les réseaux sociaux, cette attaque par une centaine de jeunes qui étaient vêtus de noir, en cagoulé, qui se sont retrouvés dans une zone de travaux à Marseille avec des pavés à proximité. On voit les images à l'instant, ce bus. Et finalement, la question qui se pose et qu'on s'est tous posé, je pense, en découvrant ces images, est-ce qu'il y a eu une défaillance, Edouard, de la sécurité sur le trajet de l'Olympique Lyonnais, des joueurs pour aller au stade?
C'est tout l'enjeu de l'enquête hein, qui va sûrement être longue. Il va y avoir de la vidéosurveillance. Il y a déjà eu des interpellations côté marseillais mais aussi côté lyonnais. Donc on va savoir un petit peu tout ce qui s'est passé, que ce soit pour le bus des joueurs ou pour le bus des supporters. Moi j'ai simplement un chiffre. D'ordinaire, il y a une vingtaine de véhicules qui encadrent le bus de l'OL entre l'hôtel et le stade. Et là, hier, il y avait deux véhicules et deux motos.
Donc, il y a forcément un problème. Effectivement, moi, j'ai le souvenir, j'étais à l'Olympico la saison dernière, à l'OL. Je suis arrivée au Groupama Stadium en même temps que les Marseillais. C'était impressionnant. Il y avait des cars de CRS qui entouraient les cars, il y avait des motards. Sur les images, en tout cas, que l'on voit, il n'y a pas l'air d'avoir cela hier soir, Enzo, à Marseille.
Ouais, c'est clair que c'est de l'insécurité. Moi, j'ai déjà été dans les cars qui, voilà, avec le cortège et on sent en sécurité. Hein. Le bus, il va tout droit, le cortège, et voilà, et rien ne nous arrête. Et là, c'était comme.
Les supporters ne peuvent pas approcher,
non,
accéder.
C'est impossible. Normalement, c'est impossible. Et là, c'était, j'ai l'impression, un guet-apens, quoi.
Ouais. C'est ce que dit d'ailleurs un supporter de l'Olympique Lyonnais qui a accepté de nous répondre, vous l'entendrez dans le journal sur BFM Lyon tout au long de la soirée, qui était du déplacement hier à l'OL dans les bus, qui a été dans le parkage et qui nous disait pour nous, clairement, on a senti un guet-apens. Tout était prévu, tout était organisé. On savait qu'il allait avoir un problème à un moment donné.
On voit sur les images ces cars qui ralentissent, qui sont pris sur un feu rouge devant un véhicule. On ne sait pas ce qui se passe et on voit ces individus qui surgissent un petit peu de nulle part pour leur balancer des bouteilles de bière. Je crois même qu'il y a eu des boules de pétanque, qu'il y a eu des objets en tout genre qui ont été balancés sur les vitres. On voit ces fenêtres qui sont éventrées. On se demande comment c'est possible dans une ville comme Marseille avec un dispositif de sécurité qui doit être bien préparé.
Surtout que normalement, quand il y a un cortège, les feux ils n'existent pas. Tu vas tout droit et voilà, tout se passe bien. Sauf que là, ouais, ils ont respecté le code de la route, je sais pas pourquoi, et j'ai l'impression que c'était vraiment organisé, quoi.
Et pourtant, la préfète de police de Marseille dit que ce déplacement, ce match, cet événement était organisé depuis de longues semaines. Édouard, alors là, c'est un cas assez exceptionnel, puisque les faits se sont déroulés sur le chemin du stade, pas à l'intérieur de l'enceinte du vélodrome. C'est un incident sur la voie publique. Quelles sanctions, du coup, à quoi on doit s'attendre aujourd'hui? Est-ce que l'Olympique de Marseille peut être sanctionné ou pas?
Bah là, on est vraiment... Il n'y a pas de jurisprudence par rapport à ça, parce qu'on est vraiment dans un cas nouveau, comme vous le disiez. On n'est pas dans le stade, on est sur la voie publique. Alors, on va imaginer que les autorités vont renvoyer sur le club sur les autorités. Mais on a bien entendu Pablo Longoria qui dit la limite, que ce soit dans mon périmètre ou pas, je m'en fiche d'une certaine manière. C'est quand même inacceptable. Après, sportivement parlant, il ne peut pas y avoir de match perdu pour Marseille. Il va forcément... on se dirige vers... une reprogrammation
à huis clos.
À huis clos, il y a des chances.
La commission des compétitions se réunit ce jeudi. Hein,
voilà,
justement,
on parle d'une date. La seule date disponible avant Noël, c'est le 6 décembre. Donc peut-être à ce moment-là, on verra un petit peu les mesures qui seront prises. Mais de toute façon, ce match sportivement doit avoir lieu, en fait.
Roland Courbis, hier sur le plateau de BFM TV, était très remonté, très en colère. Et lui disait sur BFM TV, coach Courbis, que le problème aussi, c'était d'avoir accepté le déplacement des supporters lyonnais. Ça fait 6 ans qu'il y avait interdiction. Il dit, c'est son avis, en tout cas je le répète, que c'était un risque énorme dans ce contexte actuel, dans la situation aussi de l'Olympique lyonnais au classement, d'accepter le déplacement des supporters lyonnais à Marseille. Enzo, est-ce que vous partagez cet avis ?
Ben, c'est un risque parce que chaque année il se passe des choses comme ça, les vitres cassées, tout ça. Après, c'est sûr que pour faire le déplacement en étant supporter, il faut vraiment être un vaillant. Sachant que tu peux mettre en gros ta vie en danger, comme on l'a vu hier, je pense que malheureusement, ouais, il va falloir interdire ces déplacements et c'est triste pour le foot.
Il faut arriver à interdire le déplacement des supporters.
Ben c'est triste hein, pour le foot parce que c'est censé être une fête et un moment de partage entre supporters, mais vu qu'il y a des casseurs et on peut pas maîtriser les gens qui font du mal au football, ben oui, faut interdire ça avant qu'il y ait des drames quoi.
Évidemment, hier soir, quelques minutes après cette décision, la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, s'est exprimée sur RMC Sport. C'était sa première réaction à la ministre. On a entendu Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, également ce matin. Évidemment, tout le monde condamne, tout le monde parle de sanctions fermes, qu'il faut être dur, que ça ne doit plus se reproduire. Et pourtant, Maxime, j'ai un peu le sentiment, malheureusement, même si, évidemment, hier soir, on a franchi un cap dans ce que l'on a pu vivre aujourd'hui dans le football, qu'on a un petit peu les mêmes discours à chaque fois qu'il y a un incident dans un stade autour d'un match de foot et que finalement rien ne passe, les mois passent et puis il y a un nouvel incident qui arrive, tout le monde se remet à reparler et finalement...
On se demande ce que sera la prochaine étape. Je crois que c'est Jérôme Alonso hier sur le plateau du diffuseur qui disait quelle sera la prochaine étape, est-ce que ce sera un mort la prochaine étape. Et la question aujourd'hui elle se pose, comme disait Edouard, on voit l'entraîneur de l'OL qui a deux doigts de perdre son œil, à deux doigts ou même à quelques millimètres de perdre son œil plutôt. On se demande ce que sera la prochaine étape. On a vu des supporters toulousains à Liverpool cette semaine en Ligue Europa être félicités par la police de Liverpool pour leur comportement. Même ce message, il est bizarre. Est-ce que des policiers doivent féliciter des supporters parce qu'ils se comportent bien? On en est là aujourd'hui dans le football. Est-ce qu'il faut interdire les déplacements comme Enzo le disait? Je ne sais pas. Ça se passe très bien dans notre sport. Il y a la Coupe du Monde de rugby qui... Le parallèle est simple à faire. Hein. La Coupe du Monde de rugby s'est terminée il y a quelques jours. J'étais à Marseille, moi, en plus, il y a 2 semaines, le jour d'Angleterre-Fidji, le jour de Galles-Argentine. Les supporters de ces 4 nations étaient main dans la main à Marseille. À Lyon aussi, on avait des belles scènes de supporters.
Ouais, moi, j'ai vécu avec le Galles-Australie. Effectivement, on se promenait dans Lyon, on voyait les supporters gallois, les supporters australiens, tout se passait très bien, il n'y avait aucun souci.
Le problème, il touche le football. Va vraiment falloir réfléchir pourquoi seulement ce problème touche le football et pas d'autres sports aujourd'hui.
Ce problème de violence, mais aussi ces problèmes de racisme, on doit en parler également ce soir le parquage OL avec ses 600 supporters. Et hier, ces chants racistes entendus, ces saluts nazis, des cris de singes aussi. Alors condamné dès ce matin par l'Olympique lyonnais, la commission de la Ligue va se réunir. Ces scènes-là aussi, Edouard, sont dramatique et malheureusement elle se répète assez fréquemment.
Oui, mais alors je peux vous dire que du côté de l'OL on a pris le taureau par les cornes parce que c'est pas nouveau, malheureusement on a déjà eu à Reims et à Brest, mais je peux vous dire, même si ça s'est pas su, que l'OL a porté plainte contre ses propres supporters, ce qui avait déjà été le cas les précédentes fois. Donc ça a été déjà depuis quelques mois, il y a une jurisprudence quand même d'un club qui porte plainte contre ses propres supporters. Voilà, de plus en plus, mais il faut ne pas avoir la main qui tremble, et à l'OL on ne l'a pas. Il y a ce communiqué qui est sorti, ils ont demandé les images de la vidéosurveillance pour confronter avec leurs propres images du côté de l'OL. Après, la difficulté c'est que certes les groupes que l'on connaît ont édicté des chartes. On peut imaginer que voilà, la plupart les signent, mais le problème, c'est les problèmes des indépendants qui s'agrègent, et puis éventuellement d'un groupe ou des groupes qui ne sont pas reconnus, pas connus, pas inscrits, donc difficile de les dissoudre. Donc là, il faut non seulement que les clubs agissent, et ils le font par exemple pour l'OL de plus en plus, mais il faut aussi que les autorités et le parquet suivent quand on veut et quand on le fait du côté de l'OL par exemple, de porter plainte contre l'un de ses propres
rapidement,
supporters.
Rapidement, Edouard, est-ce que l'OL peut être sanctionné pour le comportement de ses supporters hier à Marseille ?
Il y a de fortes chances aussi, on va voir un petit peu comment ça va donner, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs affaires dans l'affaire et on va suivre malheureusement ces épisodes.
Ouais, on va en reparler. Effectivement, rapidement quand même, je voudrais vous montrer le calendrier, puisque le sportif va reprendre ses droits, on l'espère, ce dimanche au Groupama Stadium, avec la réception de Metz pour l'Olympique lyonnais. Enzo, Metz qui est 16e au classement. Dans ce contexte-là aussi, l'OL va être très attendu. Il va falloir réagir. Peut-être, on l'espère enfin, cette première victoire de la saison face à Metz.
Ben, il y a tout intérêt à gagner, parce que sinon, là, on rentre vraiment dans une grande urgence. Et c'est un concurrent direct au maintien. Donc, il va falloir aller gagner à Saint-Symphorien, ouais, c'est clair.
Ce sera au Groupama, c'est à domicile, à 13h ce dimanche. Vous serez aux commentaires, évidemment, Edouard, pour RMC Sport. Et on la débriefera lundi prochain. Rapidement, les autres résultats du week-end avec Nicolas Flon.
Retour victorieux du Loup après deux mois de coupure. À domicile, l'équipe lyonnaise s'est largement imposée face à Clermont malgré un début de match à l'envers. Menés 13-0, les Rodaniens ont renversé la partie grâce notamment à 4 essais, dont 2 du géorgien Niniashvili. Le Loup s'impose 41-22 et décroche le point de bonus offensif. Deuxième match de Gianmarco Pozzecco à la tête de l'ASVEL et première victoire pour l'entraîneur italien. Battu par Bologne vendredi, le club rodanien s'est défait de Strasbourg hier à l'Astrobal. Devant de 5 points à la pause, Lyon-Villeurbanne a accéléré dans le troisième quart-temps, remporté 27-9. Porté par Geoffrey Lauvergne et Youssouf Afal, 32 points à eux deux, l'ASVEL s'impose 91-72 et signe un sixième succès cette saison en Betclic Elite. L'équipe féminine de l'ASVEL a, elle, logiquement chuté face à Bourges. Privée de plusieurs joueuses, dont Sandrine Gruda, les Lyonnaises ont d'abord fait jeu égal, 35-34 pour elle à la pause, avant de craquer dans la deuxième partie du match. Avec 23 points marqués seulement en 20 minutes, l'ASVEL s'incline 58-79 à domicile et concède sa quatrième défaite en 6 matchs de championnat.
Merci messieurs d'avoir été avec moi pour cette émission inhabituelle, mais il fallait aussi s'arrêter sur ces événements. On se retrouve lundi prochain pour débriefer le match face à Metz et vous restez avec nous. Évidemment, on continue de parler de ces événements à Marseille hier dans nos prochaines éditions sur BFM Lyon.